L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. L'atelier numérique chaque samedi 16h-18h. Tout à l'heure, la rédaction de Zeronet.com sera là avec Éric Le Bourlou. On jettera un œil sur l'actualité de la semaine. Le crash test d'Antoine, bien sûr, pour terminer. Mais d'ici là, notre passion selon Sanet, et on va parler de sécurité dans les véhicules connectés. Lila, parce que ça va devenir un vrai enjeu.
Oui, parce qu'on l'a répété suffisamment dans les précédentes émissions. Plus on connecte, plus oui. ça rend vulnérable. Alors les véhicules communicants vont bientôt arriver sur nos routes, dans les airs, sur nos rails, et ça va être crucial de se préoccuper de leur sécurité. Alors pour en parler, on a une spécialiste, Coralie Héritier. Bonjour.
Bonjour.
Alors Coralie Héritier, vous êtes directrice générale d'IDnomics, IDnomics. Chez IDnomics, vous êtes spécialiste d'identité numérique et de sécurisation de ces entités. Alors, quel rapport avec la choucroute, avec les véhicules communicants?
Mais tout d'abord, un véhicule, alors il a une identité, il a une plaque, et si on fait une analogie avec sa plaque d'immatriculation, dans le monde numérique, ce véhicule, il doit aussi avoir une identité. Et donc, on lui donne une identité par le biais de ce qu'on appelle un certificat électronique.
D'accord. Donc... Mais tous les véhicules connectés aujourd'hui ont ce certificat électronique, c'est une obligation ?
Alors, beaucoup de véhicules aujourd'hui, et puis les véhicules produits par PSA, par Renault, disposent de certificats électroniques pour dans leur système d'information, dans les systèmes d'information qui sont dans les véhicules. Alors aujourd'hui, tous les véhicules sont connectés quasiment, connectés par leur système d'information, par un GPS.
Et ils sont connectés à un serveur qui va récolter des données, forcément ?
Oui, à des serveurs. Et là, aujourd'hui, ce qui apparaît et ce qui est produit désormais par PSA et par Renault, ce sont des véhicules communicants. Ce sont ce qu'on appelle des systèmes de transport intelligents coopératifs qui font l'objet d'un projet coordonné par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. C'est un projet qui est assez passionnant, qui est financé par l'Europe à 50%, donc c'est un projet européen. Et il y a des projets similaires qui existent dans différents pays européens. Alors, la vocation de ce projet, c'est justement de déployer ces véhicules qui disposent de systèmes de communication entre eux et des systèmes de communication avec des infrastructures de bord de route, ce qui permet à la fois donc de se donner des informations sur leur position relative, sur des aspects d'incidents de route comme les freinages d'urgence. Ça leur permet aussi de disposer d'informations qui sont données par les gestionnaires d'infrastructures routières et qui les alertent par exemple sur des chantiers, et ça permet de fluidifier le trafic, d'éviter les incidents, d'assurer un peu plus de sécurité sur les intervenants dans ces chantiers de bord de route. Et ça assure évidemment plus de sécurité entre les véhicules pour ça évite les collisions, par exemple.
Et ça, ce projet Scoop est en train d'être déployé en France.
Absolument. Les tests réels sur route vont être réalisés de manière imminente. Il y a déjà des tests qui ont été faits sur ce qu'on appelle des plateaux. Et là, sur des routes de certains départements, notamment alors en Île-de-France, mais aussi beaucoup en Bretagne, avec le soutien d'ailleurs des collectivités locales, ces tests vont être faits, 3000 véhicules sur environ 2000 km de route.
Et vous, donc, vous agissez sur la partie sécurisation de ces véhicules communicants en leur donnant une identité, un pseudo.
Oui.
Est-ce que ces voitures vont être estampillées, vont avoir une identité propre, ou est-ce que l'identité va être attachée à l'identité du conducteur ?
Alors, l'identité, c'est bien celle du véhicule, c'est pas celle de la personne. Donc, c'est
là, si je vends mon véhicule, il gardera la même identité, en fait.
Oui, absolument. Donc, l'identité, elle est propre au véhicule. Et en fait, qu'est-ce que ça permet, une identité ? Ça permet de s'assurer que ce véhicule qui a des facultés de communication, il fait bien partie du réseau de confiance. Ça permet d'éviter que quelqu'un de malveillant, par exemple, donne des fausses informations sur ce réseau, qui est une sorte de réseau Wi-Fi, c'est un réseau réseau Wi-Fi dédié qui s'appelle l'ITS G5, qui est un réseau qui a été défini au niveau européen. Et donc, tous ces véhicules qui communiquent sur ce réseau, il faut s'assurer qu'ils font partie de ce système de confiance. Alors, il y a d'autres types de protection qui sont assurées dans le cadre de ce projet. C'est de la protection finalement du parcours du véhicule, parce que qui dit identification dit aussi traçage possible du véhicule. Et pour assurer la protection de l'anonymisation des personnes, il y a aussi des certificats électroniques qui vont être émis régulièrement au cours d'une journée, par exemple, pour permettre de crypter en quelque sorte le parcours du véhicule et éviter qu'on suive les gens à la trace, parce que c'est très important de protéger les données des personnes, les données des véhicules en question et les parcours des gens.
Cela dit, l'anonymisation, là, ça limite. Par exemple, si on a un accident, là, ça peut être parfois intéressant de lever cette anonymisation pour qu'on puisse savoir à qui appartient le véhicule. Peut-être avoir des données concernant le propriétaire, je ne sais pas.
Oui, absolument. C'est quelque chose qui doit être rendu possible. Et c'est pour ça que le dispositif Kaidynamic a mis en place permet à un moment donné, en cas de besoin, de lever cette anonymisation. C'est pour ça que dans notre jargon, on parle de pseudonymisation. Nous, c'est pas nous qui déciderons de ça, évidemment. Ce sera une décision de justice, par exemple, ou une réglementation. En tout cas, on donne cette possibilité. Mais ce qui est fondamental, c'est que par défaut, le véhicule est protégé de la vue de n'importe qui dans ses déplacements.
Mais malgré tout, on peut imaginer aussi, peut-être, entre guillemets, un flicage de certains véhicules. Parce que je vais rouler trop vite et que ma voiture va dépasser la vitesse limite, on peut très bien imaginer que ces données qui vont être enregistrées pourront être communiquées, et pourquoi pas la police.
Alors ça relève pas de notre domaine, ce sera clairement le domaine judiciaire, le domaine réglementaire qui le définira. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on donne des outils, et je vous le dis, par défaut, c'est la protection de l'identité des personnes et la protection de leur liberté et de leurs données personnelles.
Est-ce que ce projet de voiture communicante, de véhicule communicant, pourrait être un premier pas vers le véhicule autonome? Parce que quelque part, vous mettez tous les bons ingrédients pour préparer...
On peut très bien imaginer que ces véhicules, qui aujourd'hui sont des véhicules classiques, qu'on conduit avec un conducteur, on peut imaginer que ces dispositifs puissent être aussi produits sur des véhicules autonomes, c'est-à-dire qui se conduisent tout seuls, en gros. C'est tout à fait compatible, oui.
Alors, on a parlé de véhicules intelligents au tout début, de transport, on a annoncé le transport intelligent. Vous agissez également dans les avions, il me semble. Alors, sur quelle partie, sur quel pan encore l'identification?
Alors, je pense que le grand constructeur qui est Airbus ne dévoilera pas les endroits où il met des certificats électroniques.
Sécurisation.
Non, mais on sécurise des réseaux de communication. On comprend très bien que les avions doivent communiquer avec un central, ils doivent communiquer aussi avec des sous-traitants, avec des chaînes de gestion de maintenance, avec des informations sur des plans d'avion, des informations très sensibles. Donc, toutes ces communications, il faut qu'elles soient protégées. Donc, là encore, on est sur le même principe que sur les véhicules routiers communicants.
Sur les trains également.
Sur les trains également, parce qu'un TGV a besoin de communiquer en permanence avec un central sur des informations de route, par exemple.
Quelque part, tous ces différents projets permettent de sensibiliser, j'imagine, les constructeurs automobiles à l'enjeu de la sécurité des véhicules connectés.
Alors, je dirais qu'on n'a même pas besoin de les sensibiliser, parce que l'initiative, elle vient bien d'eux. C'est eux qui ont rassemblé un certain nombre de partenaires sur ces projets-là. Alors, certes, fédérés par le ministère, mais ils sont tout à fait conscients que la sécurité des communications et des systèmes d'information des véhicules est fondamentale à prendre en amont pour assurer la sécurité routière. Donc pour protéger des vies, il faut aussi protéger les systèmes d'information sur les véhicules et leur communication.
Alors ces données vont devenir des données sensibles qui vont être peut-être aussi la proie de certains hackers et voire même pirates. Comment être sûr que ces données ne soient pas craquables? Vous allez surveiller tout ça, parce qu'on sait qu'aujourd'hui rien n'est véritablement à 100% sécurisé. Ça va être un défi important, ça, non ? De garder toujours une sécurité au top.
Mais c'est justement pour ça que la technologie qu'on utilise chez iDynamic a été choisie pour ces projets. Et d'ailleurs, c'est le même type de technologie sur les autres projets européens. Mmh. Bon, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la PKI. C'est ces certificats électroniques, ils sont pas craquables. Ou alors, vous y passez pour craquer un certificat, vous y passez 3 jours avec un ultra expert et encore. Hein, ou peut-être comme Lisbeth Salander dans Le Dernier Millennium, mais ça, c'est du roman. Donc, non, on peut pas craquer. C'est précisément ça qui permet de protéger ces communications. C'est le principe même du certificat électronique.
D'accord. C'est une bonne nouvelle.
Est-ce qu'on pourrait également, est-ce que ça pourrait être un moyen d'immatriculer toutes les flottes de drones civils dont on ne sait que faire aujourd'hui ?
Vous ne croyez pas si bien dire, parce que justement, on vient d'entrer dans un groupe de travail sur les drones civils, parce que les drones sont justement une menace en termes de sécurité. Il faut pouvoir les en maîtriser les vols. Beaucoup de ces drones sont civils. Donc la DGAC, avec le SGDN, ont mis en place un programme de réflexion sur comment immatriculer ces drones et comment assurer le fait que ces drones ne puissent pas être hackés et qu'ils puissent avoir eux aussi une protection de leur communication.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Coralie Héritier. Je rappelle, vous êtes directrice générale d'iDynamic et vous participez au déploiement du projet Scoop at France.
Voilà, qu'on évoquera sans doute dans les mois et les années qui viennent, sans aucun doute. Merci beaucoup.
Merci.
On revient dans un instant à la suite de cet atelier avec le World Tour et le dossier de l'atelier. Ce sera le futur d'Hardware et ce sera avec Arnaud Auger. Tout à l'heure, à tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, notre dossier de l'atelier. Mais dans l'immédiat, c'est le World Tour. Et le World Tour, ce samedi, c'est avec vous, Aurore Géraud.
Alors cette semaine, pour notre French Tech Tour et non notre World Tour, je vais parler de santé et de numérique. Cette semaine, Dassault Systèmes, le spécialiste de la 3D, annonçait un partenariat avec l'INSERM, qui est l'Institut National de la Santé et de la recherche médicale, un partenariat mettant en place une plateforme 3D Experience, qui est une plateforme de collaboration ouverte, qui est également un moyen d'expérimentation. C'est une plateforme également qui vient appuyer un programme stratégique de recherche biomédicale, notamment dans le domaine du vieillissement, mais pas seulement, dans la lutte contre le cancer, dans la génomique et dans l'étude de la flore intestinale. Alors, je suis en compagnie de Bernard Charles. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Dassault Systèmes et nous allons parler donc de visualisation 3D et santé. Quelles sont les origines de Dassault avec la santé ? Quand est-ce que ça a commencé ?
Dassault Systèmes a décidé d'investir sur finalement l'utilisation des logiciels pour le secteur de la santé en 2004, quand nous avons entamé des recherches visant à créer une plateforme de collaboration pour l'activité santé, et ça a donné naissance à un programme important qui s'est appelé Bio-Intelligence. L'ambition de ce programme peut se résumer à quelques points de repère. Comment peut-on faire pour que des acteurs qui travaillent sur des sujets complexes puissent mieux collaborer? C'est quand même le cœur de Dassault Systèmes quand on développe un avion ou on développe un programme de voiture, c'est la collaboration. Comment peut-on mémoriser ce savoir? Et comment peut-on s'assurer que les modèles numériques, pas uniquement les données, mais les modèles numériques, soient représentatifs du phénomène qui se passe dans la vie réelle. Ce programme a été une réussite formidable, ce qui a conduit Dassault Systèmes à investir 1,2 milliard dans le secteur de la santé. Nous sommes aujourd'hui le numéro un mondial dans le secteur de ce qu'on appelle life science en anglais, hein, c'est-à-dire pharma, instrumentation. Et donc, par l'acquisition d'une société qui s'appelle Acelleris à San Diego et qui est devenue maintenant Biovia. Donc, on a envie de faire avec Biovia ce que Katia est au monde de l'industrie. Voilà comment cela a commencé. Aujourd'hui, on annonce avec l'INSERM un partenariat, la phase 2 de ce grand partenariat. D'abord, la première phase a donné l'occasion de réaliser des produits, et des produits qu'on peut exporter maintenant, des solutions logicielles. Et la deuxième phase consiste à faire un pas de plus qui est significatif. L'INSERM a un savoir-faire considérable dans la connaissance des sciences de la vie en recherche. Comment peut-on faire que ceci soit dans des modèles numériques qui soient mis à la disposition de l'industrie et du secteur de la santé pour qu'elle devienne plus performante dans son innovation et dans son industrialisation de cette innovation. Donc voilà aujourd'hui ce qui est annoncé dans le cadre de notre partenariat avec l'INSERM et grâce à Yves Lévy.
Vous proposez une plateforme qui s'appelle 3D Experience, une plateforme collaborative, une plateforme de tests également, d'expérimentation. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui manque en France dans la recherche ?
La recherche dans le monde et aussi en France a besoin d'être mieux équipée en termes de possibilités de collaboration ouverte ou semi-ouverte, parce que vous ne voulez pas non plus tout publier, et finalement d'utiliser ces univers virtuels, pas uniquement l'outil informatique, mais la représentation du monde réel par un monde virtuel, de manière à progresser plus rapidement. Donc il y a un besoin. 3D expérience, le 3D ici veut dire, c'est une approche sphérique, c'est-à-dire finalement c'est un 360 degrés. Et expérience est très précieux puisque on veut répliquer, on veut voir dans un univers comme un film virtuel ce qui se passe dans la vie réelle d'une cellule, d'une molécule, du corps humain, des organes et bref, des sciences de la vie. Et quand l'être humain peut observer dans le détail un phénomène, eh bien c'est déjà le début de solution. Et c'est ça que nous tentons de faire, que nous progressons donc sur notre chemin, puisque nous avons déjà des offres qui sont assez performantes dans le secteur avec 3D Experience pour Life Science.
À l'atelier numérique, on est persuadé que tout ce qui est biomédical, tout ce qui est séquençage ADN, c'est le futur. On voit que Dassault Systèmes, c'est le cas également. Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui pourra arriver ensuite? Est-ce que le but aussi, c'est une manière, la recherche c'est compliqué, est-ce que c'est une manière de démocratiser? Est-ce que le but, on pourrait voir un moment des partenariats avec des startups, ce genre de choses se développer?
Le cœur de ce que nous faisons avec l'INSERM va être très inclusif. On constitue un noyau dur, partenariat INSERM Dassault Systèmes, mais notre intention, évidemment, c'est d'impliquer de nombreuses startups. Nous l'avions fait dans le projet Bio-Intelligence, la phase qui a été formidablement bien réussie, puisque nous avions rassemblé plus d'une cinquantaine de startups, dont Sobios, par exemple, qui a fait des travaux formidables. Donc notre intention, là, c'est d'être inclusif et d'aider et de faire bénéficier à des startups qui travaillent sur l'instrumentation, sur la compréhension des phénomènes cliniques, et d'être partie prenante en bénéficiant du travail et de la plateforme de coopération que l'on a. C'est bien amorcé, on a démontré que c'était possible, et puis c'est tellement plus amusant pour tout le monde.
Merci beaucoup Bernard Charles, je rappelle DG d'Assaut Système.
Aurore Géraud, merci, et place à notre dossier de l'atelier, direction maintenant l'atelier San Francisco, donc aux US. Avec vous Arnaud Auger, on va évoquer le futur du hardware cette semaine.
Oui, je suis avec Benjamin Joff à San Francisco à l'occasion du Demo Day de HAX, le plus grand accélérateur hardware mondial qui emmène les startups produire à Shenzhen en Chine, l'usine électronique du monde, et qui les emmène ensuite, une fois qu'elles sont prêtes, présentées devant les investisseurs de la Silicon Valley. Bonjour Benjamin.
Bonjour Arnaud.
Alors avant de parler de HAX, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours ?
Alors je suis ingénieur centralien de Lyon et je suis parti en Asie en l'an 2000. Et ça fait donc maintenant 16 ans que je travaille dans la région, dans les hautes technologies. Je travaille dans l'internet, le télécom, le jeu vidéo et plus récemment dans le hardware. Au Japon, en Corée et en Chine principalement, mais également un petit peu à Singapour, en Malaisie et dans la Silicon Valley.
Très bien, donc maintenant vous êtes associé à HAX. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ?
Alors HAX, c'est une société d'investissement qui investit dans des startups d'objets connectés, donc aussi bien de la robotique que des produits de grande consommation électronique, que des produits médicaux. On investit très très tôt dans des prototypes et on aide les sociétés en les faisant venir à Shenzhen à transformer ces prototypes en produits plus rapidement et le plus efficacement possible et à les lancer mondialement.
Est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres pour comprendre la dimension de HAX ?
Alors, on a commencé les investissements il y a 4 ans. On a investi dans plus de 150 startups. Cette année, on va investir dans 100 startups de plus. À peu près la moitié sont concentrées sur du B2B, la moitié sur du B2C. La plupart de nos startups sont internationales. 90% sont en dehors de Chine, 10% sont chinoises. Beaucoup viennent des États-Unis et du Canada. On a à peu près 20% d'Europe et 20% d'Asie.
Qu'est-ce que les startups viennent chercher chez Axe ?
Donc, ce qu'ils viennent chercher, c'est une vraie accélération, c'est-à-dire gagner beaucoup de temps entre le moment où elles ont créé leur premier prototype et le moment où elles arrivent vraiment sur le marché. En général, ça coûte cher et c'est très long. Ça peut prendre 2 ans, des millions de dollars. Et avec Shenzhen, on peut faire ça en beaucoup moins de temps et pour beaucoup moins cher. Et aussi bien parce que Shenzhen est la supply chain qui crée aussi les produits de Apple. Typiquement, on dit qu'une semaine à Shenzhen peut faire autant qu'un mois partout ailleurs.
Est-ce que vous avez des projets français qui ont pu réussir grâce à Axe ?
Alors, on a 2 projets français qui ont très bien marché. La première, c'est Print, start-up française qui crée une coque pour téléphone mobile qui permet de prendre des photos. Eux, ils ont fait un très beau Kickstarter à plus d'1,5 million de dollars. Depuis, se sont livrés leurs produits, fonctionnent très bien. Ils ont déjà livré plus de 20 000 produits. Une autre belle start-up qui est dans les produits médicaux s'appelle FitMe, qui font une semelle connectée pour le pied diabétique. C'est une invention intéressante et qui cherche maintenant à se développer dans les produits type sport. Et la troisième qui vient de terminer le programme et qui s'appelle Joy, qui crée un produit pour les jeunes enfants, pour des parents qui ne veulent pas donner de smartwatch ou veulent pas donner d'iPhone à leurs enfants, mais qui veulent quand même avoir du contact et principalement les aider à créer de bonnes habitudes. Donc leur produit Octopus est là pour ça.
Très bien, alors vous qui connaissez bien les différents écosystèmes à travers le monde, comment jugez-vous de la Silicon Valley ?
Alors la Silicon Valley, pour l'innovation, est un écosystème exceptionnel parce qu'ils réunissent à très très bon niveau les 5 composants les plus importants qui sont à la fois la taille du marché, l'accès aux capitaux, l'accès aux talents, une excellente infrastructure et des réglementations qui supportent l'innovation. Combiné à ça, ils ont une histoire de plusieurs générations d'entrepreneurs qui continuent d'investir dans les innovations et ça permet d'accélérer tout ce processus et de rendre l'écosystème très coopératif.
Alors, j'ai jamais autant vu de corporate VC, ces fonds d'investissement qui appartiennent à des grands groupes, qu'au démodé de Axe. Quelle est la place que jouent les grands groupes pour les startups du hardware ?
Alors, c'est une très bonne question et ce qui est intéressant, c'est que dans le software, les grands groupes se cherchaient un peu. Ils avaient du mal à trouver si vraiment il y avait des choses pour eux à part en tant que client. Dans le hardware, finalement, le monde dans lequel on vit est quand même encore très physique. Quasiment tous les grands groupes font des produits physiques. Et donc, ils s'intéressent au hardware parce qu'ils se disent finalement, la prochaine innovation pour mes produits, c'est de les connecter, c'est de leur donner de l'intelligence, c'est de leur donner de l'autonomie, d'avoir des capteurs, de l'électronique, de l'intelligence artificielle possiblement là-dedans. Donc, ils regardent de très près, à la fois en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que client potentiel, en tant que distributeur potentiel, en tant que co-développeur potentiel.
Vous parlez qu'au-delà de la compatibilité entre le produit et le marché, le fameux product market fit, il fallait que les startups puissent réfléchir à leur compatibilité avec les grands groupes, leur product corporate fit. Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, alors pour les startups, travailler avec des corporates, ça peut être très avantageux parce que les grandes sociétés ont des ressources que les startups n'ont pas. Évidemment, les grands groupes ont une marque, mais aussi des réseaux de distribution, des ressources en capitaux, des experts qui permettent potentiellement d'accélérer le développement des startups en étant le premier client, le distributeur de leurs produits, le co-développeur. Donc on essaie de créer ces partenariats. On a signé récemment un partenariat avec Michelin sur le thème des technologies futures du voyage. Mais on prépare également d'autres partenariats dans les technologies de santé et d'autres. Et on est ravis d'ailleurs de discuter avec davantage de grands groupes pour ça.
Et quand vous voyez le futur de la robotique ?
Alors la robotique, c'est un sujet, je pense tout le monde a vu des robots à la télévision, dans des films ou des dessins animés. C'est souvent des robots humanoïdes, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt soit des robots de service, soit de l'automatisation de tâches répétitives. Par exemple, une start-up dans laquelle on a investi, c'est un robot pour des laboratoires de biotechnologie. Ils veulent devenir le PC de la biotech. Et c'est un robot qui utilise des pipettes toute la journée pour faire des expérimentations de biotech. Dans un labo, utiliser des pipettes, ça prend probablement les 3/4 du temps des techniciens. C'est pas du tout la tâche la plus intéressante. Les tâches les plus intéressantes et la plus forte valeur ajoutée, c'est la création de ces protocoles d'expérimentation et l'analyse des résultats. Et donc, ces robots pourraient finalement enlever les tâches robotiques que font les humains et permettre aux humains de se concentrer sur vraiment ce qu'on fait le mieux, les tâches créatives, les tâches d'analyse. Est-ce que les robots vont pas détruire des emplois ? Alors, c'est certain qu'ils vont détruire certains emplois, mais les robots créent aussi des emplois.
Merci beaucoup, Benjamin.
Ardo, merci. On revient dans un instant. Suite de l'atelier avec la rédaction de 01net.com, comme chaque samedi. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Et c'est l'atelier numérique sur BFM Business. Avant de se dire au revoir comme chaque samedi, place à la rédaction de 01net.com avec Éric Le Bourlou qui est à mes côtés comme chaque samedi. Bonjour Éric.
Bonjour.
Rédacteur en chef donc de 01net. Et on va s'intéresser à l'actu qu'on a pu lire cette semaine sur le premier site d'actualité high-tech en France. Et on va commencer par cette petite histoire. Alors c'est anecdotique, hein. Mais lorsque Mark Zuckerberg poste une photo un peu perso, forcément tout le monde scrute la photo.
Exactement.
Zoom dans la photo. Et parfois on découvre des trucs un peu rigolos.
Eh oui, on découvre que Mark Zuckerberg, qui prône pourtant, évidemment, qu'on montre beaucoup de choses sur Internet, hein,
eh oui,
son site Facebook.
C'est son business quand même.
C'est quand même son business. Et ben, Mark Zuckerberg, il aime pas trop qu'on le voit via sa webcam. Puisque, à l'occasion des 500 millions d'utilisateurs d'Instagram, hein, il a fait une belle photo pour se vanter un peu de tout ça. 500 millions d'utilisateurs, c'est pas mal.
Et puisque rappelons que, voilà, Instagram a été racheté par Facebook il y a quelques années.
Appartient à Facebook. Et, mais on a vu en arrière-plan que son Mac, hein, son bon vieux Mac qu'il utilise depuis longtemps, et t'avais un petit truc en plus, c'est-à-dire un petit bout de scotch sur sa webcam pour éviter qu'on puisse éventuellement le filmer à son insu, un bout de scotch sur sa webcam et aussi un masque sur le micro de son ordinateur. Alors évidemment ça fait tout le tour du web, tout le monde s'est dit Mark Zuckerberg est complètement parano, alors nous il nous incite à partager un maximum de choses mais lui il se montre jamais, etc. Mais bon, en même temps...
Voilà, ça c'est la première réaction un peu, on va dire, animale qu'on peut avoir quand on voit ça. Mais quand on réfléchit finalement, est-ce qu'il a tort ou pas?
Il a pas forcément tort en fait. Il a pas forcément tort parce que bon, c'est quand même Mark Zuckerberg. On soupçonne qu'il pourrait être susceptible d'être espionné. Et il existe, même si sur Mac c'est un peu plus compliqué, mais ça existe. Il existe énormément de logiciels espions, des virus, des malwares qui profitent en douce de votre webcam, qui peuvent l'allumer à distance, qui peuvent aussi vous écouter via le micro, et donc il est pas
sans
étonnant,
qu'on s'en rende compte, c'est-à-dire que ça va pas lancer la vidéo, vous êtes en train de travailler comme d'habitude,
exactement. Il y a eu énormément de malwares récents, hein, qui ont profité de ces de votre webcam pour vous espionner à votre insu. Et effectivement Mark Zuckerberg le sait. Alors on peut aussi parler de la NSA, hein. On sait que la NSA a d'importants moyens pour espionner les gens, des malwares qui sont les seul à utiliser, donc ils sont méconnus par ailleurs. Et donc simplement, je pense que vu son statut de quand même de VIP, hein, il prend de sérieuses précautions pour ne pas se faire écouter, ce qui peut paraître en fait assez normal.
Ouais.
Mais en tout cas, effectivement, la photo était assez rigolote.
Assez amusante. Il n'a pas réagi d'ailleurs, hein.
Non, il n'a pas réagi.
Voilà, il aurait pu envoyer un petit tweet ou dire quelque chose, mais il n'a pas réagi.
Non.
Rappelons qu'il a un Mac, mais si... on a un PC, là les risques sont encore plus grands, puisqu'on le sait, les failles sur Windows sont quand même plus importantes que sur Mac.
En fait, il est plus facile d'attraper un virus sous Windows, même s'il y a des problèmes de sécurité
bien sûr, aussi.
Sur Mac. Hein.
Voilà. On referme la parenthèse concernant cette petite anecdote, et pour maintenant s'intéresser à quelque chose qui est beaucoup plus impressionnant. Peut-être avez-vous vu cette vidéo qui circule sur le web, sur Facebook notamment, ou sur Twitter. C'est la dernière création de Boston Dynamics, qui est une boîte qui est hallucinante, que je vous invite à découvrir. Ils ont une page YouTube qui est complètement hallucinante, où ils présentent en fait tous leurs prototypes de robots qu'ils font.
Exactement.
Et c'est tout bonnement impressionnant.
Ouais.
Alors ils ont fait des robots, des vidéos de robots, de chiens par exemple.
Ouais.
C'est des petits chiens des gros chiens qui marchent comme un vrai chien. On dirait qu'ils sont vivants.
On dirait qu'ils sont vivants.
Ouais. Ouais.
Et effectivement, Boston Dynamics, qui on rappelle aussi avait été racheté par Google. Hein, c'est une filiale de Google. Google avait dit il y avait des rumeurs comme quoi ils voudraient revendre Boston Dynamics. Mais en tout cas, Boston Dynamics continue à travailler sur des robots hyper impressionnants.
Ils travaillent aussi avec les militaires, je crois.
Exactement. C'était leur premier marché. C'était des robots militaires pour notamment aider les militaires à transporter du matériel, par exemple. Et là, ils ont sorti un nouveau robot de leur escarcelle qui s'appelle Spot Mini. Et ce qu'il a comme particularité, ce robot, c'est qu'il est toujours aussi mobile. On dirait effectivement un chien, hein, un chien avec un long cou cette fois.
Oui, il est bizarre, quand même.
On va dire qu'il ressemble
à une girafe.
Il ressemble un peu à une girafe. Alors, au bout de ce cou, il y a une espèce de pince. Et grâce à cette pince, il peut en fait saisir des objets. Donc il se déplace, il est suffisamment petit, et c'est une première pour Boston Dynamics pour fonctionner dans un environnement, on va dire, de maison quotidien, un environnement domestique, ce qui n'avait jamais été le cas.
Il n'est pas trop imposant.
Et ils l'ont montré comme étant un robot domestique, c'est-à-dire que c'est un robot qui est capable d'aller prendre un verre sur une table et d'aller le poser dans le lave-vaisselle, par exemple. C'est aussi un robot qui est capable, alors ils s'amusent bien dans leur petite vidéo Boston Dynamics, d'aller prendre une bière sur la table et de vous la servir sur votre canapé, par exemple aussi. Mais tout ça, ça montre aussi que Boston Dynamics veut aller plus loin que simplement les robots militaires, les... d'ailleurs que Google ne souhaitait pas spécialement continuer, pour aller vers quelque chose de vrai robot domestique et grand public, et qui pourrait à terme, pourquoi pas, un jour arriver, on ne sait pas à quel horizon, hein, mais dans nos foyers, quoi. Ouais. Et effectivement, on vous invite vraiment à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce que en vrai, on peut être bluffé par pas mal de robots, mais ceux-ci en particulier sont vraiment assez extraordinaires. En plus, on rappelle qu'auparavant, Boston Dynamics bossait sur des moteurs hydrauliques. Là, c'est un pur robot électrique qui est pas bruyant, qui voilà. Donc c'est vraiment vraiment impressionnant.
Oui, c'est sans doute le futur. Hein. Imaginez un robot qui vous sert à boire pendant que vous regardez un match et qui après prend votre verre et va le mettre dans le lave-vaisselle.
Non, mais attendez, c'est quand même un rêve.
C'est un truc de fou.
Et alors en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils lui mettent aussi une petite peau de banane à un moment. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui. Ils tombent, ils aiment bien leur faire un peu mal à leur robot.
Oui,
et ils se relèvent évidemment tout seuls, sans problème.
C'est ça, voilà. C'est ça qui est incroyable. On va parler maintenant d'une tendance qui est forte sur les réseaux sociaux, c'est le fait de pouvoir filmer un instant présent, voilà, et de le partager en direct, live, avec tout le monde. Alors, on connaît le phénomène Periscope, mais il faut savoir que tout le monde s'y met.
Tout le monde s'y met, ouais.
Facebook, avec Facebook Live.
Et puis aussi maintenant YouTube, hein. YouTube va s'y mettre. Alors on pouvait déjà le faire avec une application spécifique, etc. Mais Google a annoncé là cette semaine que YouTube très bientôt offrirait la vidéo en live sur l'application classique de YouTube que tout le monde connaît, donc sur smartphone. Donc ce qui veut dire que à l'instar de Periscope, vous pourrez démarrer l'application YouTube, appuyer sur Je suis en live et hop, diffuser à tous vos abonnés, tous les gens qui suivent votre chaîne directement. De la vidéo en direct. Et ça, c'est assez important, sachant le pouvoir énorme de YouTube aujourd'hui sur la vidéo sur Internet. Hein. YouTube, effectivement, donc, va se lancer dans le live. Alors, d'un point de vue de l'interface, ça ressemble d'ailleurs beaucoup à Periscope. Vous avez des commentaires qui arrivent en direct sur la vidéo et sous forme de bulles. Ça ressemble un peu à Periscope. Mmh. Mais effectivement, ça va arriver et ça risque de faire un peu mal, sans doute, à Periscope si ça marche comme on peut s'y attendre.
Oui, parce qu'on sait que YouTube arrive à capter une audience qui est monstrueuse.
Exactement. Hein,
donc, ça sera peut-être plus facile d'être vu par beaucoup de gens sur YouTube que sur Periscope.
Exactement. Et mais il n'y a pas que YouTube. Alors, c'était à la même conférence. Hein, c'est Facebook aussi qui a annoncé, avancé très vite aussi sur Facebook Live, qui cartonne. Hein. Facebook Live de plus en plus rentre dans les mœurs. On avait vu cette fameuse mamie avec son masque de Chewbacca, ça avait cartonné. Et là, en fait, Facebook annonce aussi de nouvelles fonctions du côté de son live, notamment la possibilité de faire des lives à deux séparément. Donc, vous pouvez faire un live, par exemple, dans le cadre d'une interview, d'une discussion avec un ami qui vous êtes séparé de milliers de kilomètres. On peut lancer des lives à deux. Et on va aussi pouvoir ajouter, vous connaissez sans doute l'application Masquerade qui vous permet d'ajouter des masques, de transformer votre visage. Tout ça va être intégré en fait à Facebook Live, donc vous pourrez vous transformer en direct devant les spectateurs avec toute cette technologie qu'a racheté Facebook en achetant Masquerade.
Voilà.
Donc voilà, ça c'est bientôt, ça va arriver très bientôt aussi sur Facebook Live. Donc il y a vraiment une guerre là qui se lance entre les géants du web sur cette vidéo en direct.
Voilà. Il reste qui finalement dans l'histoire là? Parce que Twitter donc à Periscope.
Voilà. Tous les géants, on va dire des réseaux sociaux. Il y a aussi Yahoo hein, avec Tumblr. Tumblr aussi se lance dans le live. Voilà. On ne sait pas où ça va nous mener tout ça, mais en tout cas il y a vraiment là quelque chose qui arrive. Il y a Snapchat aussi qui fait pas du broadcast, mais qui pourrait y arriver bientôt. Tout ça est en train d'aller très vite vers une diffusion en permanence de vidéos sur Internet.
Voilà, et ce qui fera la différence, c'est le contenu, bien sûr, hein, parce
Exactement.
Que se filmer devant sa télé, ça n'a pas forcément de sens, sauf si on a des trucs sympas à raconter.
Exactement.
Voilà, et on va terminer par un constat étonnant. La puissance informatique aujourd'hui n'est plus aux États-Unis. Alors, il y a évidemment beaucoup de puissance informatique, mais les ordis les plus puissants dans le monde ne sont plus aux US.
Exactement.
C'est quand même un... voilà, il y a quelque chose qui se passe, quoi.
Exactement. Bah là, c'est la Chine, hein, qui a frappé un très grand coup dans le monde du supercalculateur en arrivant en tout cas cette semaine à la tête du top 500. C'est le top des plus grands ordinateurs du monde, des plus puissants ordinateurs du monde, avec un nouvel ordinateur, alors j'espère que je vais le prononcer correctement, qui s'appelle Sunweta U-Lite, qui est en fait tout simplement trois fois plus puissant que le précédent ordinateur le plus puissant au monde, qui était déjà chinois, oui, mais qui fonctionnait avec des technologies américaines, avec des puces Intel. Cette fois-ci, cet ordinateur...
Oui, parce que Intel a toujours été un peu le roi de la puissance, en fait, en termes de processeurs. Etc.
Là, en fait, cet ordinateur est trois fois plus puissant que le précédent, et surtout, il ne fonctionne plus avec des puces Intel, mais avec des processeurs chinois, fabriqués en Chine. Et alors, je vais vous donner quelques chiffres, mais ça va peut-être pas dire à tout le monde, mais bon, c'est juste 40 000 processeurs à l'intérieur, des 10 millions de cœurs de calcul, et 93 pétaflops de calcul, ce qui veut dire, quand on compare au précédent,
les pétaflops, c'est énorme, hein, enfin, je veux dire.
Oui. Bah, sachant que, si vous voulez, par exemple, de comparaison, une Xbox ultra puissante, celle qui sortira l'année prochaine, fera 6 teraflops et voilà. Pétaflops.
Un pétaflop, c'est 1000 teraflops, c'est ça, j'imagine.
Faudrait pas qu'on dise une bêtise, là.
Mais bon, on n'est pas sûr. Pour tous les ingénieurs informaticiens qui nous écoutent, on n'est pas sûr. Mais bref, c'est énorme. Voilà.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est trois fois plus que la précédente machine qui était déjà chinoise. Et voilà. Alors, à quoi va servir cette machine ? Donc, se servira pour de l'industrie et ça servira pour de la recherche sur le climat. On verra bien. Ça pourrait servir aussi à autre chose. On sait que les supercalculateurs, c'est pour l'industrie et aussi pour les applications militaires.
Bien sûr.
C'est extrêmement important.
Mais de toute façon, cette puissance de calcul sert à tout. Sert ça à la recherche contre le cancer, etc. Parce que, évidemment, il faut d'énormes masses de calculs pour essayer d'avancer. Merci beaucoup, Eric.
Merci.
Eric Le Bourlou, donc rédacteur en chef de 01net.com, comme chaque samedi dans l'atelier. Vous restez avec nous. On va terminer avec notre décryptage, pardon. Et puis, Antoine Cyr pour le crash test. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Les 24 heures du Mans sera le point de départ du crash test. Et ce sera dans un instant pour terminer cet atelier. Mais auparavant, c'est le décryptage de ce samedi. Avec vous, Guillaume de Groisse de l'atelier. Prime Now, Airbnb, Hitch, c'est la guerre de l'économie collaborative.
Bonjour François, bonjour à tous. Après Uber et Airbnb, la mairie de Paris s'en prend à Hitch et à Amazon. À croire que les équipes de Anne Hidalgo ont décidé de se payer toute la Silicon Valley. Certes, dans chacun de ces dossiers, les raisons sont différentes et loin d'ailleurs d'être toujours injustifiées. Manque de transparence fiscale, concurrence déloyale, travail dissimulé, menaces sur les équilibres et acteurs économiques de la cité, la liste des griefs est longue et on l'imagine à chaque fois très bien documentée. Par ailleurs, la capitale n'est pas la seule à mener ce type de combat. D'autres grandes cités du monde, en Europe, mais aussi aux États-Unis, se sont attaquées à certaines de ces stars du digital, dont l'essor des plateformes s'assoit parfois sur des vides juridiques et des interprétations, disons, souples, des législations locales ou nationales. On se souvient d'ailleurs que la ville de San Francisco, en 2014, avait purement et simplement interdit l'utilisation d'une app développée par les Italiens de Monkey Parking. L'idée était pourtant très bonne, puisque la start-up permettait à des milliers de personnes à travers le monde de mettre aux enchères leur place de stationnement public. Lancée en mai à San Francisco, où se garer est un véritable enfer, c'est pas Nathalie qui dira le contraire, l'application avait très rapidement eu du succès auprès des automobilistes. Et en moyenne, une place de stationnement s'y vendait entre 5 et 20 dollars. Trois mois plus tard, même dans la ville de la tech mondiale, l'application était interdite. Car quelque part, les pouvoirs publics ne voient pas d'un très bon œil l'ubérisation de leurs recettes. La nature des nouveaux revenus des acteurs qui permettent ces succès, qu'ils soient chauffeurs, livreurs ou loueurs de surfaces d'habitation, reste difficile à apprécier et à taxer, ce qui est une grande tentation française, mais pas que. Dès lors qu'une activité économique et sociale voit le jour sans que l'État et les collectivités locales ne puissent y prélever leur dîme. Nous retrouvons là quelque part le traditionnel combat des rentiers et des barbares, des innovateurs et des conservateurs, sans préjuger du bien fondé des uns et des autres. D'ailleurs, ceux qui font bouger les lignes en violant allègrement les frontières, pris à payer à leurs yeux pour pouvoir construire le monde de demain, et ceux qui résistent sur leurs remparts, tentant désespérément de sauvegarder le monde d'hier, estimant à tort ou à raison qu'il a fait ses preuves. regrettons simplement l'impression de malaise laissée par ces initiatives répétées de notre vieille lutèce. Vue d'ailleurs, elle pourrait donner à penser que Paris mène sa propre petite guerre contre les disrupteurs du monde numérique et se fait le chantre de la vieille économie contre la nouvelle. Ce n'est peut-être qu'une question d'image, certes, mais pas à l'honneur de la ville de la Tour Eiffel, où les grèves contre la loi travail ont vu les trains s'arrêter et les ordures s'entasser. Rappelons au passage que la Tour Eiffel, symbole indiscutable aujourd'hui, fut sauvée en son temps par l'essor des télécommunications. Cette image s'avère d'autant plus gênante et contre-productive que la capitale n'est pas en retard sur les projets digitaux de tout ordre et accueille un écosystème numérique de pointe fait de start-up et d'initiatives publiques et privées, menées notamment sous la houlette de l'équipe municipale, avec aux côtés d'Anne Hidalgo un Jean-Louis Missica qui réussit l'alliage entre dynamisme digital et conviction environnementale. L'école 42 ou le futur incubateur Fraissinet en sont de très, très bons exemples, sans oublier ce qui est fait par Paris Senco et Loïc Dosseur. Afin d'éviter de basculer dans la caricature, la ville pourrait adopter une tactique moins systématique et notamment faire la différence entre un nouveau service qui remplit un manque, ce qui est le cas de Hitch qui ramène la nuit les jeunes dans leur banlieue où les taxis et même les VTC ne vont plus, sans les contraindre à attendre plusieurs heures le premier métro ou le Noctilien, à différencier d'une activité véritablement menaçante pour l'économie et l'emploi ou contournant des façons trop évidentes les législations sociales ou fiscales françaises au détriment de la collectivité. À cet égard d'ailleurs, le cas Amazon sera intéressant à suivre. Livrer en moins d'une heure des produits frais au cœur de la capitale constitue-t-il vraiment un cas flagrant de danger pour les acteurs locaux ou une simple application des règles élémentaires de saine concurrence ? À moins que l'argument ne soit autre, peut-être de type écologique, pour éviter la multiplication des livraisons polluantes intramuros. En ce cas, Amazon ne pourra pas être le seul à être montré du doigt, d'autant que le géant américain a déjà recours à des coursiers à vélo à Manhattan. Alors, monsieur Missica, si cette chronique arrive jusqu'à vous, vous êtes bien entendu notre invité dans l'atelier numérique, quand vous voulez, pour changer cette image.
Guillaume, merci. Et place donc à notre crash test pour terminer. Antoine, vous étiez, il y a quoi, une semaine tout pile, hein? C'était le week-end dernier, aux 24 heures du Mans.
Aux 24 heures du Mans.
Et ça donc, vous a inspiré le crash test, bien sûr.
Le crash test, parce qu'il y a beaucoup de rapports entre les 24 heures du Mans et le monde des geeks. Et puis aussi quand même parce que les 24 heures du Mans, c'est une formidable épreuve technologique. Alors rappelons donc ce qui s'est passé cette année. Il y a une, vous savez, les 24 heures du Mans, il y a des constructeurs qui s'affrontent dans la catégorie la plus prestigieuse. Dans les autres catégories de voitures un peu moins rapides, ce sont plutôt des écuries privées, encore que cette année on a vu aussi des constructeurs qui ont gagné d'ailleurs. Et donc dans la catégorie la plus puissante, on avait cette année Audi, Porsche qui est vainqueur l'an dernier, Audi qui est le recordman, je sais pas si ça se dit, pour un constructeur du nombre de victoires, et Toyota qui présente la caractéristique d'avoir essayé au moins une vingtaine de fois de gagner les 24 heures du Mans et qui n'y est jamais arrivé.
Ah là là, ah oui, ils sont maudits, hein.
Et donc cette année, la Toyota a dominé la course, c'était vraiment la voiture qui marchait le mieux.
Oui.
Et pour des raisons vraiment mystérieuses, on se croirait dans un épisode de Michel Vaillant, la Toyota s'est arrêtée à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Elle ne pouvait plus redémarrer. Et finalement, quand elle est repartie, elle ne pouvait pas être classée parce que elle avait fait son dernier tour en 8 minutes et que le règlement prévoit que le dernier tour doit être fait en 6 minutes. Voilà.
D'accord.
Donc, du coup, c'est Porsche qui a gagné, mais vraiment sur le fil. Et puis, on a assisté aussi à des retours gagnants, puisque Alpine a gagné dans la catégorie LMP2, qui est la catégorie dans laquelle il y a le plus de candidats, et puis Ford a gagné dans la catégorie Grand Tourisme, et donc voilà, deux noms légendaires du Mans qui ont gagné. Alors,
bon, ça c'était pour tous ceux qui
c'était le petit résumé,
ne connaissaient pas les
24 heures du Mans. Mais vous allez voir, on va y revenir tout à l'heure. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les 24 heures aux 24 heures du Mans, il y a une option gamer. Parce que il y a déjà des pilotes des 24 heures du Mans qui sont d'anciens lauréats d'un concours qui a lieu tous les ans depuis 2008 et qui est la Nissan GT Academy. Donc le principe de la Nissan GT Academy, c'est que chaque année, des joueurs expérimentés du jeu vidéo de course automobile Gran Turismo sur PlayStation sont choisis.
Oui.
Et l'objectif avoué, ça marche pas toujours, mais dans certains cas ça marche, c'est de faire des pilotes de vrais pilotes avec ces gamers et de faire de vrais pilotes qui vont participer à des compétitions importantes à bord de Nissan. Et donc, du coup, c'est intéressant parce qu'on a des gamers qui, tout en perfectionnant leur travail de gamer, vont commencer à faire un entraînement physique que ne fait pas toujours le gamer, parce que le sport automobile, les gens ne le savent pas toujours, c'est un sport extrêmement exigeant physiquement. Quand tout à fait.
Il faut avoir une vraie condition physique.
Il faut avoir une très bonne condition physique, voire, dans le cas des pilotes de Formule 1, être un athlète,
De haut niveau.
De très très haut niveau.
Bien sûr.
Voilà. En 2015, par exemple, il y a un jeune qui s'appelle Romain Sarrazin, qui était un simple joueur du dimanche de Gran Turismo, et qui, finalement, a réussi à intégrer la
c'est
GT
incroyable.
Academy. Et donc, alors, lui, il en est pas encore à faire les 24 heures du Mans, mais il en est déjà à avoir des enseignements sur de véritables voitures de course.
Donc, il petit à petit quitte le virtuel.
Exactement.
Pour s'attaquer, aux vrais véhicules physiques.
Voilà. Et donc, il y a quelques années, il y a un pilote espagnol qui était devenu qui avait gagné la Nissan Academy et qui était devenu un pilote de très très bon niveau et qui lui avait fait les 24 heures du Mans. Ce passage du virtuel au réel est quelque chose de vraiment très intéressant. Et donc, c'est une très très belle expérience que mène ainsi Nissan. Alors, il faut savoir aussi pour les geeks, pour les purs geeks, qu'il existe les 24 heures du code. Alors, et qu'est-ce que c'est que les 24 heures du code?
C'est pas le code de la route.
Non, c'est du code informatique, hein. C'est une coding party. Donc ça existe, les concours de codage. C'est un qui doit être, donc en 24 heures vous devez relever un défi de programmation dans le langage de votre choix. Les sujets sont donnés le jour J, et bien sûr si l'épreuve dure 24 heures, c'est parce qu'elle a lieu au Mans. Et donc les 24 heures du code ont lieu dans cette bonne
Mais pas durant la même période, c'est complètement décorrélé.
C'est en janvier de chaque année, hein, il y a apparemment une très bonne ambiance. C'est une école d'informatique du Mans qui organise ça. Ça a lieu dans les locaux de la CCI. La prochaine édition est donc prévue en janvier 2017. Ce sera la sixième édition des 24 heures du code. Sachant que les 24 heures du Mans, elles sont organisées depuis 1923. Donc évidemment, on n'en est plus la sixième édition. Et puis alors, je reviens quand même, donc je vous avais fait une petite explication au début pour vous parler des vainqueurs des 24 heures du Mans. Il y a une chose que peu de gens savent, c'est que la technologie des voitures gagnantes au Mans est obligatoirement une technologie hybride.
Oui.
Et que, en plus, le règlement est vraiment fait pour que les performances écologiques des voitures soient excellentes, puisque plus votre technologie est hybride, plus vous vous appuyez sur la récupération d'énergie, et plus vous avez ce qu'on appelle des jetons de puissance, c'est-à-dire que le règlement vous autorise à avoir une voiture plus puissante que si vous aviez moins de récupération d'énergie.
Donc on va plus vite,
Vous avez la possibilité d'aller plus vite. Pour vous dire quand même, aujourd'hui,
il y a toute une stratégie en fait
stratégie extrêmement complexe qui demande évidemment des calculs, et là on est dans le domaine de la programmation et du calcul très sophistiqué. Alors sachez que par exemple donc la Porsche qui a gagné cette année a un V4 turbo essence de 500 chevaux et un moteur électrique de 400 chevaux. Pour vous dire, quand même, moteur électrique de 400 chevaux.
C'est énorme.
Énorme. La Toyota, qui malheureusement a perdu, mais c'est aussi pour ça que Toyota s'accroche aux 24 heures du Mans. C'est parce que les 24 heures du Mans sont une course de voitures hybrides.
Oui.
Donc la Toyota.
Toyota est numéro un sur l'hybride, avec le Prius notamment.
Voilà. Et la Toyota a un moteur essence V6 biturbo de 500 chevaux avec une motorisation électrique additionnelle de 500 chevaux également. Donc on a une voiture, il y a 1000 chevaux à bord, quoi.
C'est
donc
incroyable.
500 essence
et, c'est le
et
mix
500
des
électrique.
Deux
et c'est le mix des deux.
Qui va rendre l'intelligence de la voiture, en fait.
Exactement. Voilà. Et donc cette voiture était cette année dominatrice, mais pour une raison pas encore très bien élucidée, donc elle a eu un problème juste à la fin. Et puis l'Audi, elle, c'est un V6 turbo diesel, donc contrairement aux deux autres, c'est un diesel de 540 chevaux, donc un peu plus puissant 100% sur le moteur diesel et un bloc électrique qui ne fait entre guillemets que 272 chevaux. Mais enfin, là aussi, on peut vraiment parler de voiture hybride. Donc, les 24 heures du Mans sont vraiment un laboratoire des technologies de moteurs de demain et certainement pas une course où on se contente de
oui,
dépenser
d'appuyer sur le champignon.
D'appuyer sur le champignon. Enfin, ouais. Ça, on le fait jamais en course automobile parce que c'est plus compliqué que ça. Mais où on se contente en tout cas de dépenser de l'essence sans réfléchir aux nouvelles énergies.
Passionnant. Merci beaucoup Antoine pour ce crash test dédié aux 24 heures du Mans. Et c'est avec ce crash test que se termine cet atelier numérique. Merci d'avoir été avec nous. Très bon week-end et on sera là bien sûr samedi prochain. Salut à tous.